chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de la CAT avec Michel, qui va nous parler aujourd'hui d'une ONG. De quelle ONG vas-tu nous parler, Michel, aujourd'hui ?
Bonjour Marie-Christine, bonjour chers auditeurs. Je vais vous parler de l'ONG Mémorial, l'association Mémorial internationale qui est russe et qui garde la mémoire de tout ce qui s'est passé au niveau de la perestroïka et des répressions en URSS. Donc en effet, on en avait déjà parlé à cette radio en 2022, lorsque on dénonçait la liquidation de cette ONG par Poutine, parce que il ne voulait pas de commentaires et de relecture de l'histoire avec l'agression qu'il faisait à ce moment-là, le 24 février 2022, en Ukraine. Donc, je vais juste rappeler un petit peu mieux. On entendait déjà parler de briser les tabous sur le passé en répression en URSS, et particulièrement la grande terreur qu'avait eue sous les années de Staline, les années 1937 à 1938. Et une des premières tâches de cette association, elle s'était fixée de redonner un nom à chaque victime de ces crimes de masse, et ainsi de réhumaniser l'histoire russe. Et donc, la Cour suprême de Russie a acté cette liquidation le 28 février 2022, parce que ça les intéressait pas du tout qu'on reparle de leur passé, et que ce centre de défense des droits humains, qui correspondait aussi avec ce mémorial, a été aussi fermé le 5 avril 2022. Donc c'est tout récent, tout ça. Et l'on voit que cela correspond vraiment avec les débuts des événements en Ukraine.
Mais depuis, l'histoire s'est quand même accélérée et l'association a eu des soutiens extérieurs et les centres de l'association qui étaient en exil ont été reconfigurés. Ils ont essayé malgré tout d'exister, si je comprends bien.
Oui, ils ont un petit peu fait comme quand il y a eu des dégradations, je pense à Daesh en Irak. Ils se sont tout de suite organisés pour que cette mémoire ne soit pas perdue et soit transférée effectivement en Europe. Ils ont été aussi aidés vraiment beaucoup par la décision du comité Nobel de décerner le prix Nobel de la paix à ce mémorial. Et ça a fait écho ainsi aux protestations venues des quatre coins de l'Europe à l'annonce de la dissolution de cette organisation, qui était vraiment emblématique pour la société civile russe. Et ce prix, donc le prix Nobel de la paix, a été attribué conjointement au Centre ukrainien pour les libertés civiles et à Alès Bialatsky, militant des droits humains de l'organisation SNANA au Bélarus, dont le procès est en cours à Minsk.
Et justement, le prix Nobel, qu'est-ce que ça a changé pour l'ONG ? Ça l'a fait mieux connaître, mieux...
Alors, cette association s'est vraiment mis comme optique de collecter, d'analyser tous les événements politiques et historiques en Russie à travers son histoire ancienne et actuellement à travers la guerre de l'Ukraine. Donc, il y a vraiment un examen de tout ce qui se passe actuellement et je pense que ça servira plus tard pour les procès futurs. Mmh. Et puis, la réélecture de cette guerre.
Et les activistes du mémorial, ils sont toujours en Russie ou ils ont été obligés de s'exiler ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Alors, le message porté par le prix a invité à la résistance solidaire de tous ses représentants, qui étaient des représentants éclairés, de la lutte contre la dictature russe et biélorusse, et les Ukrainiens qui subissaient donc l'agression des armées russes. Donc, tout de suite, le mémorial a dédié une moitié des fonds reçus à Oslo aux familles ukrainiennes les plus touchées par le conflit et l'autre moitié à l'aide aux prisonniers politiques détenus en Russie, dont le nombre excède les 500. Et lors de la cérémonie de remise du prix Nobel, Jan Rachinski, mathématicien et successeur d'Arseni Rozhinsky à la direction de l'ONG Mémorial, soulignait dans son discours qu'ils étaient beaucoup plus nombreux aujourd'hui que dans toute l'Union soviétique au début de la perestroïka. Donc, on voit bien que depuis fin octobre 2022, il y a une organisation et il y a même un nouveau site web de soutien aux prisonniers politiques lancé par ce mémorial depuis, bien sûr, l'étranger, puisqu'en Russie, c'est, tout est contrôlé, tout est, et au contraire, encore plus répressif. Hein. On publie les listes actualisées des détenus, on tient des chroniques de la répression courante et le Centre de défense des droits poursuit ainsi son travail de documentation et de dénonciation des abus commis pendant la guerre menée par la Russie, pas seulement en Ukraine, mais en Tchétchénie, dans la Géorgie, en Syrie et bien sûr donc en Ukraine maintenant. Cette publication du rapport sur cette fabrication de l'impunité et des exactions, ça caractérise vraiment ces points chauds imminents.
Alors, bon, là, on a vu tout ce que faisait le mémorial et combien ils étaient courageux et actifs. Et nous, alors, comment faire connaître leur travail de mémoire et les enjeux de ce mémorial ça paraît très important, tout ça.
Alors, ils sont, on l'a dit, on l'a rappelé, très nombreux. Le chiffre serait presque hasardeux, tant la dispersion des membres est grande, y compris celle des dirigeants les plus en vue du mouvement. Certains parmi les historiens du mémorial sont restés en Russie pour poursuivre leur travail et sont devenus des moteurs de résistance. Oleg Orlov, membre fondateur de l'ONG en 1988, éminente figure historique de la défense des droits, lui a choisi de poursuivre sa protestation au grand jour avec tous les risques.
Oui, c'est ça.
De condamnation, de mise en prison. Ces panneaux anti-guerre sur les places publiques en Russie lui ont valu plusieurs incarcérations, mais il continue de porter le flambeau du mémorial en Russie, mais aussi à Minsk, où il est venu assister au procès d'Alès Balienski. Toutes les associations locales porte le sigle ONG hein, en Russie, sont juridiquement dissoutes parce qu'on pense qu'elles dépendent de l'étranger et que les informations sont faussées. C'est la grosse défense du gouvernement de Poutine, qu'elles ne sont plus indépendantes. Et elles subissent de fortes pressions qui entraînent donc l'exil de ses membres vers l'étranger. À Moscou, le bâtiment historique du Mémorial international qui abritait les archives du musée a été complètement confisqué. Et le patrimoine de l'association est toutefois protégé et l'entreprise de numérisation des archives se poursuit en Russie et à l'étranger, ce qui est très important. Ses activités ne cessent pas. Sa force est de reconnaître que le pays s'est vidé d'une partie significative, mais le travail de mémoire continue. C'est une période, bien sûr, de grand désarroi. Les exils sont un petit peu regroupés. Ils constituent des bureaux dans les capitales européennes, à Vilnius, à Varsovie, à Berlin, à Prague. Et aux côtés de ces antennes de l'exil figurent aussi des associations de soutien en Allemagne, en République tchèque, en Italie, sans oublier bien sûr la France. La CAT en fait partie. Et cette constellation à venir et à devenir est vraiment une représentation du mémorial hors mur qui donne de grands espoirs.
Il est vital de se souvenir, en somme. Hein, c'est ça, de les aider à continuer de se souvenir.
Oui, voilà. Tout à fait. Il faut vraiment les soutenir.
Tu disais tout à l'heure que la CAT participe à cette réflexion pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'elle propose, la CAT? Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Alors, la CAT, elle propose d'oublier de soutenir, par la prière bien sûr, mais d'éviter l'impunité des actes. Donc, c'est un gros travail de l'association de tirer de l'oubli tout ce que les gens ont pu témoigner, de se servir de tous les témoignages pour revenir sur les problèmes d'injustice, les tortures, les réductions au silence, les conductions dans des couloirs de la mort. Dites-leur que j'existe. Je reprends par exemple un documentaire sur les prisonniers sahraouis, avec la figure emblématique de Naama Asfari, qui symbolise parfaitement le combat mené pour garder la mémoire de toute personne quand un régime tente d'effacer le souvenir. Il nous appartient, nous, d'être des relais, des sans-voix de ceux qui ont été oubliés de l'histoire et de continuer à parler un petit peu de ce qui s'est passé. On vit en ce moment, on a les commémorations du 8 mai. À Chartres, on parle des 80 ans de la mort de Jean Moulin. Ouais. Tout ça, c'est des relectures qui sont nécessaires pour qu'on comprenne qu'il est vital de se souvenir. Un petit exemple aussi d'une grand-mère qui a connu les camps de concentration. La mémoire aussi se couvre de végétation, tout se confond, les détails s'estompent, mais il ne reste que le bien et l'amour. Et elle se souvient, cette grand-mère, de tous ceux qui ont permis qu'elle soit en vie aujourd'hui et pour tous ceux pour qui je vis. Et c'est pour ça qu'elle témoigne encore actuellement de ce qui s'est passé pour elle. Donc, on voit bien que tout ce qui est idéologie religieuse, politique, ils ont un désir de faire table rase du passé pour créer un homme nouveau, pour créer une société avec d'autres valeurs qui leur correspondent à leur idéal. Mais toutes ces méthodes doivent vraiment montrer que l'emprisonnement par la torture psychologique, physique, tous ces génocides dans l'histoire doivent nous pousser à vraiment agir contre ce déni de mémoire. Et c'est vraiment intéressant pour nous, pour les lycéens, pour les profs d'histoire. Ça doit être, entre guillemets, vraiment au jour le jour qu'ils doivent adapter leurs cours, parce qu'on est en ce moment vers une marche bien spécifique dans notre monde.
Tout à fait.
À travers toutes les dictatures qui existent. Alors, il y a des témoignages qui peuvent être vus sur Internet, des témoignages de la voix de la guerre qui sont traduits en français, qu'on peut retrouver en vidéo ou en texte sur memorialfrance.org, voix de guerre. Donc, ça peut se retrouver. On peut se renseigner aussi auprès de l'association de la CAT sur tout ce qui correspond à des témoignages par rapport à la Russie.
D'accord.
Donc, moi, je pense aussi à tous les orthodoxes. On en a des Ukrainiens actuellement même. On a une association ukrainienne qui fait partie du collectif de Festisol. Donc, il faut les encourager, à les prier avec eux. Dernièrement, ils ont fêté Pâques au compas. Donc, on a des Ukrainiens autour de nous. On a aussi des Russes qui sont très tristes de ce qui se passe pour leur pays. Donc, faisons la part des choses et restons actifs avec eux.
On va le faire. Merci, Michel.
Merci, Marie-Christine. Thank you.